Fiodor Dostoïevski, La femme d'un autre. Première partie. Permettez-moi, monsieur, de vous demander, le passant tressaillit et quelque peu effrayé, considéra le personnage à grande pelisse qui lui adressait ainsi la parole à brûle-pourpoint, vers 8 heures du soir, au milieu de la rue. Lieu et heure, on le sait assez, où un individu abordé à l'improviste par un pétersbourgeois a tout droit de s'effrayer. Donc le passant tressaillit et s'effraya. « Pardonnez-moi de vous déranger, reprit le monsieur à la pelisse, mais je ne sais, vous voudrez bien m'excuser, vous voyez dans quel état je suis. » Le jeune homme au paletot remarqua seulement alors que le monsieur à la pelisse était en proie à un trouble extrême. Pâle, défiguré, la voix tremblante, il n'avait évidemment pas la pleine possession de ses facultés. La parole lui manquait. On voyait qu'il souffrait beaucoup d'être obligé d'adresser une prière à un individu qui appartenait peut-être à une classe inférieure de la société. D'ailleurs, ses manières étaient certes de la dernière inconvenance de la part d'un homme vêtu d'une pelisse si confortable, d'un frac si à la mode, un frac d'un vert sombre si distingué, un frac chamarré de décoration et significative. Visiblement impressionné par ces considérations, le monsieur à la pelisse s'efforça de maîtriser son émotion et de donner un dénouement convenable à la désagréable scène qu'il avait lui-même provoquée. Mais pardonnez-moi, je n'ai pas toute ma présence d'esprit, mais vous ne me connaissez pas. Je regrette de vous avoir dérangé. J'ai changé d'intention. Il souleva poliment son chapeau et s'éloigna. Mais faites donc. L'inconnu disparut dans l'obscurité, laissant très étonné le jeune homme au paletot. Quel singulier individu, pensait-il. Puis, après être suffisamment émerveillé, il se rappela ce qu'il avait à faire et se reprit à arpenter le trottoir en surveillant attentivement la porte d'une grande maison à plusieurs étages. Le brouillard commençait à tomber et le jeune homme s'en réjouissait, car à la faveur du brouillard, il passerait inaperçu. Personne d'ailleurs ne pouvait remarquer sa promenade obstinée, personne sauf un indifférent cocher resté là toute la journée sur son siège. « Pardonnez !» Le passant tressaillait de nouveau. C'était encore le monsieur à la pelisse. « Oh, excusez mes importunés, vous êtes probablement noble, mais ne me jugez pas trop strictement d'après le code des usages mondains. » « Et qu'est-ce que je vous dis là? Non, concevez-vous qu'un homme... Monsieur, vous voyez un homme qui a une prière à vous adresser. »« Mais si je puis, que désirez-vous? Peut-être pensez-vous déjà que je vais vous demander de l'argent ?» dit l'homme mystérieux en pâlissant tout à coup et en tordant ses lèvres dans un rire hystérique. « Mais que dites-vous là ?» « Non, non, je vois que je vous suis désagréable. Pardonnez-moi, je suis à moi-même. Vous me voyez très agité, presque affolé, mais n'allez pas en conclure. »« Mais au fait, » répondit le jeune homme impatienté, tout en hochant la tête pour encourager son bizarre interlocuteur. « Bon, voilà que vous, un jeune homme, vous me rappelez au fait comme si j'étais un petit garçon négligent. » Vraiment, il faut que j'ai perdu l'esprit. Qu'en dites-vous? Suis-je assez humilié? Répondez franchement. » Le jeune homme paraissait embarrassé. Il ne répondit pas. L'homme à la pelisse prit enfin un parti. « Permettez-moi, dit-il d'un ton décidé, de vous demander si vous n'avez pas vu une certaine dame. C'est là toute ma prière. » « Une dame ? Oui, une certaine dame. »« Bon, si, j'ai vu, mais il en passe tant. C'est cela, reprit l'original avec un sourire amer. Je divague. Alors, c'est pas cela que je voudrais vous demander. Je voulais dire, n'avez-vous pas remarqué une certaine dame, vêtue d'un manteau fourré de renard, avec une capote en velours sombre et une voilette noire? Non, je n'ai rien vu de tel, il me semble pas. Oh, alors excusez. Le jeune homme ouvrait la bouche pour parler encore, mais le monsieur à la pelisse était déjà parti, laissant de nouveau son interlocuteur stupéfait. Que le diable l'emporte, pensa le jeune homme au paletot, visiblement contrarié. Il releva avec dépit son col en castor et se remit à marcher à pas lents devant la porte de la maison aux nombreux étages. « Mais pourquoi donc ne sort-elle pas » grommela-t-il. « Il va être 8 heures. » L'horloge sonna 8 heures. « Alors que tout aille au diable à la fin !»« Pardonnez, pardonnez-moi vous-même de vous avoir ainsi. Mais vous êtes si violemment jeté de ma jambe que vous m'avez fait peur. »« Mais je viens encore à vous, certes. » Je dois vous paraître très remuant et un peu étrange. Bon, laissez donc seulement, expliquez-vous plus vite. J'ignore encore ce que vous voulez. Êtes-vous pressé? Oh, soyez tranquille, je vous parlerai franchement et sans phrase. Mais qu'y faire? Les circonstances heurtent parfois les gens les uns contre les autres, sans égard pour la différence des caractères. Vous êtes impatient, jeune homme, eh bien donc. Je ne sais comment m'expliquer. Mais je cherche une dame. Je suis décidé à tout vous dire. Il faut que je sache d'une façon précise où est allée cette dame. Mais je ne dois pas vous dire son nom, jeune homme. Bon, allons, ensuite. Mais quel ton vous prenez avec moi? Peut-être vous ai-je offensé en vous appelant jeune homme. Ce n'était pas mon intention. En un mot, voulez-vous me rendre un grand service? C'est une certaine dame, une femme comme il faut, d'une excellente famille, de mes connaissances. Je suis chargé. Mais soyez sûr que moi-même, je n'ai pas de famille. Eh bien. Comprenez la situation, jeune homme. Je vous ai encore appelé jeune homme. Chaque instant est précieux. Imaginez-vous que cette dame. Mais ne pourriez-vous pas me dire qui habite dans cette maison? Oh, beaucoup de monde. Oui, c'est-à-dire. Vous avez parfaitement raison, reprit le monsieur à la pelisse en souriant par politesse. Je sais bien que je divague un peu. Mais pourquoi le prenez-vous avec moi sur ce ton? Voyez, je vous avoue moi-même que je divague, et si vous avez de la fierté naturelle, vous aurez déjà remarqué mon humiliation. Je dis donc une dame d'une parfaite conduite, mais légère. Vous voyez que je n'y suis pas. On dirait que je fais de la littérature. Car n'a-t-on pas inventé récemment que Paul de Kock est léger, tandis qu'au contraire, tout le malheur de Paul de Kock, voilà. Le jeune homme regarda avec pitié le monsieur à la pelisse, un fou décidément. Avec un sourire vague, sans parler, il saisit d'une main tremblante le jeune homme par le collet de son paletot. Le jeune homme recula un peu. « Vous demandez donc qui ?» demeure ici. Ouais, vous m'avez dit beaucoup de monde. Je sais qu'une certaine Sofia Ostafievna y habite, reprit le jeune homme à voix basse et même avec une sorte de compassion. Mais voyez, vous savez quelque chose, jeune homme. Moi, rien, je vous assure, rien du tout. J'ai seulement jugé à votre trouble que... J'ai appris de la cuisinière qu'elle vient ici. Seulement, vous n'y êtes pas. C'est pas chez Sofia Ostaïevna, elle ne la connaît pas. Non, alors je me trompe. Évidemment, cela vous intéresse pas, jeune homme, reprit l'original en donnant à son tour une extraordinaire ironie. Écoutez, dit le jeune homme avec un certain embarras, à vrai dire, j'ignore votre situation réelle, mais il est probable que vous êtes trompé, avouez-le. Le jeune homme souriait malicieusement. Au moins ainsi nous comprendrons-nous, ajouta-t-il. Et toute sa personne laissa voir l'intention de faire un léger hochement-tête. Vous m'avez tué, mais je vous l'avoue franchement, c'est bien cela, oui. Qui cela n'arrive-t-il pas? Je suis profondément touché de votre sympathie. Convenez qu'entre jeunes gens, quoique je ne sois plus jeune, mais vous savez, l'habitude, la vie de garçon. Convenez qu'entre garçons, c'est commun. Oui, oui, c'est commun, c'est commun, mais en quoi puis-je vous être utile? Ben voici. Avouez que votre Sofia Ostaïevna, d'ailleurs je ne sais pas encore d'une façon précise où est allée cette dame, je sais seulement qu'elle est dans cette maison. Alors vous voyez, vous promenez ici, comme je me promenais de l'autre côté, j'ai pensé. Ben, je sais qu'elle est ici, je voudrais la voir et lui expliquer qu'il est inconvenant. En un mot, vous me comprenez. Et puis, c'est pas tout pour moi que j'agis, c'est, n'allez pas le penser, non, c'est la femme d'un autre. Le mari habite là-bas, sur le pont de Vosnesensky. Il veut la prendre en flagrant délit, mais il ne se décide pas. Il croit encore à la fidélité de sa femme, comme tous les maris. Ici, le monsieur à la police s'efforça de sourire. Ben, je suis son ami, je suis un homme considérable, vous le voyez, et je ne puis pas être celui pour lequel vous me prenez. Certainement, eh bien. Donc, je la surveille. Il m'a donné cette mission, oh, pauvre mari. Mais la dame est fine. Toujours un volume de Paul de Kock sous son oreiller. Elle va se faufiler sans qu'on la voie. Je sais par la cuisinière qu'elle vient ici. Alors je me suis aussitôt précipité, car je vais la surprendre. Je la soupçonne depuis longtemps. Par conséquent, je vous prie, vous qui vous promenez ici, de vous, mais je ne sais. Mais de grâce, continuez, que voulez-vous dire? Ben voilà, je n'ai pas l'honneur de vous connaître, et je n'ose dans ces conditions commettre l'indiscrétion de vous questionner. Permettez-moi donc de faire votre connaissance. C'est une très agréable rencontre. Et tout tremblant, le monsieur tendit avec effusion la main au jeune homme. « J'aurais dû commencer par là, » ajouta-t-il, « mais j'avais perdu le sentiment des convenances. » Il ne pouvait tenir en place, tournait de tous les côtés, la tête avec inquiétude, et à chaque instant saisissait le jeune homme par son paletot, comme un homme qui se noie, s'accroche aux herbes de la rive. « Voyez-vous, continua-t-il, je m'adresse à vous en ami. Oh, pardonnez-moi cette familiarité. Oui, j'allais vous demander de vouloir bien vous promener de l'autre côté, du côté de la ruelle, du côté de la sortie de derrière. De cette façon, comme moi je me promènerai devant l'entrée principale, nous formerons à tous deux la lettre Pi, et elle pourrait vous échapper. » Alors voilà ce que je crains par-dessus tout. Ce que je veux pour rien au monde, c'est qu'elle nous échappe. Dès que vous la verrez, vous l'arrêterez, vous m'appellerez. Oh, fou que je suis, je ne vois que maintenant toute l'inconvenance de ma proposition. Mais non, pourquoi pas, laissez donc. M'excusez pas, je suis fou, je m'égare. Jamais je n'ai été aussi troublé. Oh, je ne serais pas davantage si on me mettait en jugement. Je vous avoue même, oh, je serais noble et franc avec vous, jeune homme. Je vous avoue qu'à l'instant, je vous avais pris pour l'amant. Ah oui, c'est-à-dire que vous voudriez savoir ce que je fais ici. Noble garçon, cher monsieur, maintenant je suis loin de croire que vous puissiez être la mort. Je ne vous ferai pas un tel outrage, mais me donnez-vous votre parole d'honneur que vous n'êtes pas l'amant? Eh bien, je vous donne ma parole d'honneur que je suis l'amant. Mais pas de votre femme, car si j'étais son amant, au lieu d'être à présent dans la rue, je serais avec elle. De ma femme, et qui vous a dit, jeune homme, que ce soit ma femme? Je suis garçon. C'est moi-même qui suis l'amant. Mais n'avez-vous pas dit que le mari demeure sur le pont de Voznesensky? Certes, certes, je divague. Mais il y a d'autres liens, et convenez, jeune homme, qu'une certaine légèreté de caractère, c'est-à-dire. Oui, c'est bien. En d'autres termes, je ne suis pas du tout le mari. C'est à merveille, mais à vous parler franchement, je voudrais retirer de la peine que j'ai prise de vous rassurer le bénéfice de me tranquilliser moi-même. Je ne vous cache donc rien, vous me gênez. Oui, je vous promets de vous appeler, mais je vous en prie, laissez-moi la place libre, éloignez-vous. J'attends une dame, moi aussi. Faites donc, je m'en vais. Je comprends si bien l'impatience passionnée de votre cœur. Oh, je connais cela, jeune homme. Et maintenant, je vous comprends. Merci. Au revoir. Oh, pardon, jeune homme, un dernier mot. Je vais encore, je ne sais comment vous. Donnez-moi votre parole d'honneur que vous n'êtes pas l'amant. Adieu. Une question pour en finir. Savez-vous le nom du mari de votre. Enfin, c'est-à-dire de celle qui constitue. Enfin, de votre objet? Sans doute, je le sais. Ce n'est pas votre nom, voilà tout. Mais comment savez-vous mon nom? Oh, écoutez, allez-vous-en. Vous perdez votre temps. Elle a pu s'échapper 1000 fois. Que voulez-vous de plus? La vôtre porte un manteau de renard et une capote. Eh bien, la mienne porte un manteau à carreaux et un chapeau bleu en velours. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de plus? Un chapeau bleu en velours, mais. Elle aussi a un manteau à carreaux et un chapeau bleu, s'écria l'homme obstiné, qui dès lors parut prendre le parti de ne s'en aller plus jamais. Que diable, c'est une coïncidence très banale, et d'ailleurs la personne que je attends n'est pas là. Et où est-elle donc? Mais vous voulez le savoir, mais qu'est-ce que ça vous fait? Ben, je vous l'avoue, c'est toujours le même motif. Fuis, mon Dieu, n'avez-vous pas honte? Eh bien, la mienne a des connaissances ici, au troisième étage, sur la rue. Faut-il appeler les gens, quoi? Seigneur, mais moi aussi, j'ai des connaissances dans cette maison, au troisième étage, sur la rue. Le général, oui, le général. Je dirais même son nom, le général Polyvitsyn. Bon, quelle affaire! Non, c'est pas celui-là. Que le diable l'emporte! C'est pas celui-là? Non. Tous deux se turent et se regardèrent avec stupéfaction, immobiles. Bientôt le monsieur recommença à s'agiter. Moi, je vous l'avoue. Non, maintenant permettez. Vous allez parler plus clairement. L'affaire nous intéresse tous deux. Expliquez-moi quelle personne vous avez là. C'est-à-dire quelle connaissance? Oui, quelle connaissance. Eh bien, vous voyez, je lis dans vos yeux que j'ai deviné. Que diable, mais non, que diable, êtes-vous aveugle? Ne voyez-vous pas que je suis devant vous, que par conséquent je ne suis pas avec elle? D'ailleurs, ça m'est égal, parlez, taisez-vous, faites comme il vous plaira. Et le jeune homme, furieux, pirouetta sur ses talons en faisant un geste d'indifférence. Écoutez, je vous conterai tout. Notez d'abord que la jeune femme venait ici toute seule. Elle est parente avec les Polovitsine. Pour moi, je n'avais aucun soupçon. Mais hier, je rencontre le général et j'apprends de lui qu'il a déménagé depuis 3 semaines déjà. Or, ma femme, c'est-à-dire pas la mienne, celle d'un autre, sur le pont de Vodzensky. La dame, donc, prétendait être allée chez lui avant-hier encore dans cette maison. Et je tiens de la cuisinière que l'appartement de son Excellence est loué à un jeune homme nommé Bobilitsyn. Ah, diable, ah, diable. Monsieur, je suis terrifié, vous me comprenez, je suis tout peur. Mais qu'est-ce que cela me fait que vous soyez tout peur? Ah, tiens, je vois quelque chose là. Ouh, ouh. Appelez seulement Ivan Andreïtch, je cours. Bien, bien, bon, que le diable emporte, Ivan Andreïtch. Présent, s'écria Ivan Andreïtch, tout suffoquant d'émotion. Eh bien, quoi, où? Non, ce n'est rien. Je voudrais savoir, comment s'appelle cette dame? Glafira. Non, pas tout à fait. Pardon, je ne peux pas vous dire son nom. En disant ces mots, l'honnête monsieur devint pâle comme un linge. Très bien, bon, je suis sûr que ce n'est pas Glafira. D'ailleurs, celle que j'attends ne porte pas ce nom. Mais enfin, avec qui est-elle? Ouh, ben là, que le diable l'emporte. Le jeune homme était hors de lui et s'agitait d'une manière inquiétante. Et comment savez-vous qu'elle s'appelle Glafira? Mais que le diable vous emporte, monsieur. Vous venez de me dire qu'elle ne s'appelle pas Glafira. Oh, monsieur, ce ton avec moi. Alors, le ton ne fait rien à l'affaire. Est-elle votre femme, oui ou non? Non, c'est-à-dire, je suis pas marié. Mais, monsieur, je puis vous dire que je ne souhaiterais pas un honnête homme, et non pas même un homme considérable, mais seulement un homme bien élevé, d'appeler le diable à tout propos, comme vous le faites. Vous ne cessez de dire « que le diable emporte » ou « que le diable vous emporte ». Eh oui, que le diable emporte tout. Vous êtes aveuglé par la colère, alors je me tais. Dieu, qui est-ce? Où? Un éclat de rire se fit entendre. Deux jolies filles franchissaient le seuil de l'allée. Les deux hommes se jetèrent vers elles.
Ah, mais qu'avez-vous? Que voulez-vous?
Oh, c'est pas elle! Qui? Vous prenez pour nom de cocher? Où faut-il vous conduire? Mesdemoiselles? À Pokrov. Montez à Anouchka, je t'accompagne. Laisse-moi monter de l'autre côté, m'y voilà. En route et bon train. Le cocher partit. Mais d'où sortent-elles? Mon Dieu, si nous y allions. Où donc? Chez Bonitsyn. Mais c'est impossible. Pourquoi? J'irai volontiers, mais elle trouvera quelque intention pour se tirer d'affaire, je la connais. Elle dira qu'elle est venue exprès pour me prendre en faute. C'est encore moi qui aurais tort. Et dire que peut-être elle est là, mais pourquoi donc n'iriez-vous pas chez le général? Mais puisqu'il a déménagé. N'importe, elle vous dit qu'elle allait chez lui, n'est-ce pas? Eh bien, allez aussi. Comprenez-vous? Feignez d'ignorer que le général a déménagé. Vous venez chercher votre femme, voilà tout. Et après? Eh bien, après, surprenez-la avec Bobby Nitsyn. Que diable, comme vous êtes stupide. Et pourquoi désirez-vous tant que je la surprenne? Vous voyez. Quoi, vous voilà comme tout à l'heure, moi, mon pauvre petit père. Mais vous vous couvrez de honte, homme ridicule, homme sans esprit que vous êtes. Encore une fois, pourquoi donc vous intéressez-vous tout à tout cela? Que désirez-vous savoir? Ah, que le diable vous emporte! Ce n'est pas à vous que je m'intéresse. D'ailleurs, j'aime mieux y aller seul. Allez-vous-en, les décamper. Monsieur, vous allez vous oublier. Et puis, quand je m'oublierai, dit le jeune homme, les dents serrées, et se rapprochant du monsieur à la pelisse. Et devant qui m'oublierai-je? Gronda-t-il en crispant les poings. Mais monsieur, permettez. Non, mais qui êtes-vous? Mais devant qui m'oublierai-je? Votre nom? Je ne sais vraiment pas, jeune homme, pour ce que vous voulez mon nom. Je ne puis vous le dire. Je vais bien aller avec vous. Allez, montez. Je suis prêt à tout. Mais croyez-moi, je mérite qu'on me parle en termes plus choisis. Il faut jamais perdre la tête, et si vous êtes troublé, oh, je devine par quoi. Il faut pourtant conserver le sentiment des convenances. Vous êtes encore un très jeune homme. Oui, et vous êtes très vieux, mais qu'est-ce que cela me fait? Oh, j'en ai vu d'autres. Allez-vous-en donc, que faites-vous ici? Mais courez! Très vieux, mais pourquoi très vieux? Quel âge me donnez-vous donc? Certes, je n'ai que l'âge de mon emploi, mais je ne suis pas disposé à courir. On le voit. Allez-vous-en, vous dis-je, allez-vous-en. Non, je reste avec vous. Vous ne pouvez pas m'en empêcher. Alors ne criez pas, ne faites pas de bruit. Ils s'engagèrent tous deux dans l'escalier jusqu'au troisième étage. Il faisait sombre. Halte, avez-vous des allumettes?
Des allumettes? Quelles allumettes?
Ben, fumez-vous.
Oh oui, j'en ai. Les voilà, attendez.
Le monsieur à la pelisse se disputait avec ses poches.
Quel diable des serveurs!
Ah, je crois bien que c'est la porte. Oui, c'est celle-là. C'est celle-là.
Mais pourquoi criez-vous? Pourriez-vous pas parler plus bas?
Oh, monsieur, j'ai le cœur serré. Vous êtes un homme sans éducation, voilà. L'allumette flamba. Oui, c'est bien là. Voici la plaque en cuivre. Le nom y est écrit. Bobinitsyn. Voyez-vous, Bobby.
Oui, je vois le silence. Elle s'est éteinte.
Ah oui.
Ben, il faut frapper.
Oui, il faut frapper.
Ben, frappez donc.
Pourquoi moi? Ben, frappez-vous.
Lâche, mais lâche vous-même. Alors, laissez-moi seul décamper. Là, je suis presque au regret de vous avoir confié mon secret, vous. Moi, eh bien, moi, quoi, moi? Vous avez abusé de mon trouble, vous. Fichez-moi la paix, voyons, ridicule vieillard.
Mais pourquoi donc êtes-vous ici?
Et vous? Quelle belle conduite, observa avec indignation le monsieur à la pelisse. Comme c'est moral.
Mais que parlez-vous de moralité, et vous donc?
C'est criminel.
Quoi?
Mais tous les maris outragés, pour vous, sont des bonnets, n'est-ce pas?
Mais seriez-vous donc le mari? Hein? Je croyais qu'il était sur le pont de Vodzenensky. Que faites-vous donc ici?
Moi, je suis sûr maintenant que vous êtes l'amant.
Écoutez, si vous continuez, je serai obligé de vous dire que vous êtes le bonnet.
Ben, c'est-à-dire le mari, n'est-ce pas?
Dit le monsieur à la pelisse en frissonnant comme si on avait versé sur lui de l'eau bouillante.
Chut, écoutez, entendez-vous?
Est-ce elle? Non!
Oh, qu'il fait noir!
Ils se turent. On entendit du bruit dans l'appartement de Bobinitsyn.
« Pourquoi donc nous quereller ?»
reprit le monsieur à la pelisse. « Mais pourquoi m'insultez-vous?
Mais pourquoi m'exaspérez-vous?
Silence !»«
Bon, venez que vous êtes encore un très jeune homme.
Mais taisez-vous donc !»«
Pour moi, je conviens volontiers qu'un mari dans une telle situation est un bonnet.
Mais vous tairez-vous ?»«
Mais au fond, Pourquoi cet acharnement contre les malheureux maris ?
La voici. Le bruit cessa en ce moment. C'est elle ?
Oui, elle, mais pourquoi vous démenez-vous ainsi ? Ça ne vous regarde pas.
Monsieur, oui, certes, je suis troublé, hors de moi. Vous avez assez vu mon humiliation.
D'ailleurs, il fait nuit maintenant, et nous nous reverrons sans doute pas. Quoique je sois loin de vous craindre, mais mon ami m'attend sur le pont de Vozelensky. Parole, tout ce que je fais, c'est pour lui. Hélas, c'est sa femme. Car c'est pas la mienne, c'est la femme d'un autre. Le pauvre garçon, je le connais beaucoup. Voulez-vous que je vous raconte ? Je suis son ami, comme bien vous pensez. Autrement, m'agiterais-je ainsi pour lui ? Et que de fois, jadis, je lui disais : « Pourquoi te marier, mon cher ami ? Tu as du savoir, de la fortune, de la considération, et tu veux changer tous ces biens contre le caprice d'une coquette quelconque ? Avais-je pas raison ?»« Non, me répondait-il, je veux me marier, le bonheur de la famille. Ha, ha, le voilà, le bonheur de la famille. » Jamais il trompait comme vous les maris, et maintenant, il boit la lie du verre qu'il a vidé. Oh, excusez-moi, cette explication était nécessaire. Le pauvre garçon, voilà, il boit la lie du verre. Ici, le monsieur à la pelisse se mit à pleurnicher et faillit même éclater en sanglots. Oh, diable, quel tas de sots! Mais qui êtes-vous donc? S'écria le jeune homme en grinçant des dents. Quoi, convenez-en vous-même. J'étais avec vous noble et franc. Ce ton. Écoutez, dites-moi votre nom. Pourquoi?
Oh, moi, je ne puis pas vous dire mon nom.
Connaissez-vous Chabrine? Demanda vivement le jeune homme.
Chabrine?
Oui, Chabrine.
Le monsieur au paletot examinait curieusement le monsieur à la pelisse.
Vous l'entendez pas?
Mais permettez, quel Chabrine? Il ne s'agit pas de lui. Chabrine est un homme très honorable. Les tortures de la jalousie excusent à peine votre impolitesse.
Chabrine, mais c'est un vaurien, une âme vendue, un escroc. Il a volé la caisse d'État, on le mettra bientôt en jugement.
Pardon, le connaissez-vous, j'en doute fort. En effet, son visage m'est inconnu, mais des personnes qui l'approchent de très près m'ont renseigné sur son compte.
Quelle personne?
C'est un sot jaloux qui ne sait pas surveiller sa femme, voilà, êtes-vous content?
Vous vous trompez cruellement, jeune homme, hein?
Du bruit se fit de nouveau dans l'appartement des Bobinitsyn. Une porte s'ouvrit. On chuchotait.
« Ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. J'aurais reconnu sa voix. J'ai tout compris, » dit le monsieur à la pelisse, pâle comme un mort.
« Silence !» Le jeune homme s'effaça contre le mur.
« Oh, monsieur, je m'en vais, c'est pas elle, et j'en suis bien aise. »«
Bien, bien, allez-vous-en. »«
Mais pourquoi restez-vous ?
Allons, vous êtes encore là. » La porte s'ouvrit et le monsieur à la pelisse se hâta de descendre. Un homme et une femme passèrent devant le jeune homme. Son cœur cessa de battre. Une voix de femme, une voix qu'il reconnut bien vite, murmura quelques mots. Une grosse voix d'homme lui répondit.
« J'ai envoyé chercher un traîneau, » disait la grosse voix.
« Je veux bien envoyer chercher. »«
Ce sera tout de suite fait. »
La dame resta seule.
« Glaphyra, où sont tes serments ? » s'écria le jeune homme en saisissant la dame par le bras. « Ah, qui est-ce ? Vous de Vorogoff? Dieu, que faites-vous?
Avec qui êtes-vous ici?
Mais avec mon mari. Allez-vous-en bien vite. Il va sortir de chez Polovitsyn. Allez-vous-en, au nom de Dieu, allez-vous-en.
Mais Polovitsyn a déménagé d'ici depuis 3 semaines, je le sais.
Aïe!
La dame se précipita dans l'escalier. Le jeune homme la rejoignit.
Qui vous l'a dit?
Mais votre mari, madame, Ivan Andreïtch, il est ici. Il est devant vous, madame.
Ivan Ivanovitch était effectivement sur le perron.
Dieu, c'est vous?
S'écria le monsieur à la pelisse.
Ah, c'est vous!
S'écria Glafira Pietrovna, avec une joie non dissimulée en courant à lui.
Dieu, quelle aventure! J'allais chez les Polovitsyn. Tu sais, il demeure maintenant au port d'Amarzowski. Je te l'ai dit, tu t'en souviens. Alors j'avais pris un traîneau, les chevaux se sont emportés, ont tout brisé, et je suis tombé à 100 pas d'ici. J'étais évanoui. Ah, par bonheur, monsieur Dvorogoff.
Comment?
Monsieur Dvorogoff ressemblait à une statue de pierre plutôt qu'à aucun monsieur Dvorogoff.
Monsieur Dvorogoff m'a aperçu et s'est chargé de m'accompagner. Mais vous voici. Ah, je n'ai qu'à vous remercier, Ivan Andreïtch.
La dame tendit la main au médusé Ivan Andreïtch.
Ivan, je vous présente un de mes amis, M. Dvorogoff. C'est au bal de Sotkourov que j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Je crois vous en avoir parlé. Tu ne te rappelles pas, Coco?
Ah, certes, certainement, oui, je me rappelle, répondit Coco. Je suis charmé.
Il serra avec effusion la main de M. Dvorogoff.
Qui est là? Que signifie? Je vous attends, prononça la voix enrouée.
Un personnage d'une longueur démesurée se tenait devant le groupe. Il tira son lorgnon et examina curieusement le monsieur à la pelisse.
Ah, M. Bobinitsyn, fit la dame, et d'où venez-vous? Quelle rencontre! Imaginez-vous que les chevaux viennent de me jeter sous mon traîneau. Voici mon mari. Ivan, M. Bobinitsyn, au bal de Kharkov.
Ah, très charmé. Mais je vais tout de suite prendre une voiture, mon ami.
Oui, je suis encore toute tremblante, je ne me sens pas bien. C'est la foire au masque,
dit-elle tout bas à Dvoronov.
Au revoir, monsieur Bobinitsyn, au revoir. Nous le rencontrerons demain au bal de Karpov.
Non, vous n'irez pas, puisqu'il en est ainsi.
Monsieur Bobinitsyn murmura quelques mots entre ses dents, frappa du pied, monta dans son traîneau et partit. La dame arrêta une voiture et y prit place. Le monsieur à la pelisse semblait n'avoir pas la force de faire un mouvement. Il regardait d'un air stupide le monsieur en paletot qui souriait assez significativement.
« Mais je le sais. »« Bonne chère, excusez.
Oh, je suis ravi de faire votre connaissance, » dit le jeune homme en saluant.
« Oh, moi aussi ravi, très ravi. »«
Je crois que vous venez de perdre une galoche. »«
Oh, oh oui, merci. Oh. » De demain, j'en achèterai une paire en caoutchouc.
Puis le caoutchouc tient le pied trop chaud, riposta le jeune homme, qui semblait prendre un grand intérêt à la question. Ivan, viens-tu? Oh, tout de suite, mon ange.
Précisément, vous dites bien. Quelle intéressante conversation. Du reste, excusez-moi. Faites donc. Oh, charmé de vous connaître.
Le monsieur à la pelisse monta auprès de la dame. Le jeune homme suivit longtemps des yeux la voiture qui s'éloignait.